au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Aujourd'hui, chers auditeurs, je suis particulièrement heureux de recevoir le professeur Michael Edwards. Alors, qui est Michael Edwards? Après de brillantes études à Cambridge et après avoir enseigné à l'université en Angleterre, Michael Edwards, qui est né en 1938 près de Londres, a été élu professeur au Collège de France sur une chaire qui est à la fois une chaire de poétique dans la succession de Paul Valéry et d'Yves Bonnefoy, et la première chaire de littérature anglaise créée au collège. Son originalité en tant que poète vient de ce qu'ayant commencé en anglais, il écrit maintenant également en français. Son bilinguisme suscitant beaucoup d'intérêt, lecture de poèmes partout en France, entretien dans la presse et à la radio, notamment France Culture, philosophe de la création littéraire et artistique, il développe dans de nombreux livres une grande réflexion originale sur la nature et la finalité de l'art, en interrogeant la littérature, la peinture, la sculpture, la gravure, la musique. Alors, j'ajouterai aussi à cela que Michael Edwards est l'auteur de très nombreux livres, des livres tout à fait importants, passionnants, et son dernier livre, celui qui vient de paraître récemment, s'intitule « Le bonheur d'être ici, Fayard 2011 ». Et c'est ce livre, « Le bonheur d'être ici », dont nous allons parler aujourd'hui avec mon invité, c'est-à-dire Michael Edwards. Bonjour Michael Edwards.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous recevoir sur Canal Académie. Ce n'est pas la première fois.
Deuxième ou troisième fois.
Et j'avoue qu'une fois de plus, j'ai été plus que passionné par le propos de votre livre en 14 chapitres, si je ne m'abuse. Et ma première question, c'est en effet la question un peu que se pose chaque personne. Le bonheur nous hante comme un beau souvenir ou un rêve, comme une perte ou une promesse. Et vous, vous iriez vers quelle direction quand on parle du bonheur, quand vous parlez du bonheur, quand vous évoquez le bonheur?
Dans cette première phrase, j'ai essayé de comprendre le point de vue de la plupart des gens sur le bonheur, qui est aussi, en quelque sorte, le mien. Le bonheur, normalement, ne nous semble pas être du présent, mais être soit du passé, trouvable ou plutôt introuvable dans un Éden réel ou imaginé, ou dans un futur un peu vague ou très précis dans la tradition chrétienne. Et j'ai commencé à penser au bonheur, et surtout au bonheur d'être ici, au moment où j'écrivais mon livre « De l'émerveillement ». Et il me semble toujours, qu'il y a deux attitudes. La première dit que le bonheur étant perdu, la seule recherche du bonheur concerne l'ailleurs ou l'au-delà. C'est la pensée de la décadence à la fin du 19e siècle, c'est pour n'importe où hors du monde, expression que Baudelaire reprend, c'est Peter en Angleterre disant qu'il faut brûler intensément à chaque instant de la vie.
Mais alors pour le commun des mortels, je m'excuse, où le situer le bonheur? Comment le situer le bonheur? Même si la question est un peu prosaïque.
Non, c'est une très bonne question. Je situe le bonheur ici, à condition que l'ici s'ouvre à autre chose. Pour moi, il ne s'agit ni de chercher ailleurs, ni d'épuiser le moment présent au motif que demain nous mourrons, mangeons et buvons, réjouissons-nous car demain nous mourrons. Et j'ouvre une petite parenthèse, mais qui me semble extrêmement importante. Je suis navré de voir que dans la tradition chrétienne, il y a toute une tradition qui parle du néant de la vie, de la vanité du monde. Au XVIIe siècle, en France, par exemple, ce ne sont pas uniquement les jansénistes, c'est aussi des gens comme Bossuet qui parlent de ce néant et de cette vanité et qui donnent l'impression, aux chrétiens comme aux autres, que le christianisme, c'est vraiment une religion morose et sinistre qui dit que le monde est en fichu et il faut chercher ailleurs son bonheur, c'est-à-dire plus tard, au ciel, alors que si on est chrétien, on croit quand même que le monde a été créé par Dieu et que même s'il a subi une chute comme l'homme est déchu, ce monde reste une création divine et je place donc le bonheur dans un ici vécu intensément. Mais comme j'ai dit au début, un ici qui s'ouvre néanmoins à autre chose. Si on est simplement dans le bonheur d'être ici, il y a quelque chose qui manque, parce que nous savons que nous ne serons plus ici à un certain moment.
Oui, bien sûr.
Nous savons aussi que le bonheur d'être ici s'accompagne du malheur d'être ici. Et la maladie, le deuil, la mort, etc., nous conduisent à quoi ? Simplement à une sorte de désespoir devant le fait que le bonheur existe, nous voulons avoir du bonheur, nous nous sentons créés pour le bonheur.
Mais il risque de nous échapper.
Il risque de nous échapper. Ou est-ce que cette sorte d'ouverture par le souterrain nous parle en fait d'une autre possibilité ?
Alors, la question, vous venez de parler de la religion catholique, etc., de l'Église catholique. Quelle pourrait être l'œuvre chrétienne, l'œuvre d'art chrétienne, qui pourrait rassembler en elle-même le bonheur et le malheur ? Est-ce qu'il n'y a pas, dans votre esprit, une œuvre, un tableau, une sculpture, voire même une musique, où, en même temps, vous avez, de façon la plus ineffable, le bonheur et le malheur exprimés par une tendance chrétienne, disons ?
Je vois d'abord des textes. Je vais parler dans un instant de la pastorale de Beethoven, mais les textes qui me capte en quelque sorte, et dont je parle d'ailleurs dans ce livre, sont des textes comme l'Ecclésiaste. Alors l'Ecclésiaste pour tout le monde, c'est vanité des vanités, tout est vanité. Alors que si on lit le texte comme étant lui-même une lecture de la Genèse, on voit que Coëlette, celui qui l'a écrit, médite sur le fait qu'après la chute, il est dit à l'homme « tu mourras ». Et tu passeras ta vie à travailler. Tu gagneras ton pain par la sueur de ton front. Et c'est comme si l'écrivain s'était demandé, mais est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce que nous sommes simplement voués à vivre cette vie-là ?
Comme Proust d'une façon...
Tout à fait, au moment de la mort de Bergotte, le passage dont on ne parle pas, il se pose la question de savoir si Bergotte est vraiment mort. Et arrive à la conclusion qu'il n'est pas invraisemblable de penser qu'il n'est pas mort. Mais dans l'Ecclésiaste, il y a toute une dimension de joie qui affleure petit à petit jusqu'au moment où l'écrivain dit tout d'un coup « La lumière du soleil est douce ». Et un autre texte, pas du même genre, mais qui parle également de l'horreur, de la frayeur, de la terreur d'être ici et de la mort proche et de la joie de la création, c'est le moment dans Daniel, dans la partie traduite dans la Septante, dans la traduction grecque, qui est devenue le Bénédicité, où les jeunes Hébreux sont dans la fournaise ardente. Ils s'attendent à mourir, ils commencent par prier Dieu pour qu'il les protège, et ensuite, tout d'un coup, ils se lancent dans un grand cantique de joie, où au lieu simplement de louer Dieu et de louer sa création, il somme tous les éléments de la création à louer Dieu. C'est tout à fait extraordinaire. Et on passe des étoiles, du soleil, de la lune, etc., jusqu'au frimas, à la glace, au vent et à la neige. Les choses les plus quotidiennes, comme les choses les plus sublimes, sont sommées de louer Dieu. Et pour moi, c'est à la fois l'image de la vie chrétienne. On est dans une sorte de fournaise ardente. Nous savons que nous allons mourir. Nous sommes protégés pour l'instant par la grâce de Dieu qui ne nous foudroie pas aussitôt. Mais en même temps, ce monde est là. Au-delà de ce monde, il y a le Dieu qui l'a créé. C'est aussi une image pour moi, je pense le dire dans le livre, de la poésie. Parce qu'ils sont dans une fournaise. Autrement dit, ils ne voient pas les choses dont ils parlent. Ils sont séparés du monde, ils sont éloignés. Ils sont en quelque sorte aveuglés, mais dans leur aveuglement, ils voient tout et ils voient mieux.
Je dois dire, d'ailleurs vous le dites plus d'une fois, ouvrez les yeux, et c'est très important. Et alors, votre livre pourrait, si on demandait qui est Michael Edwards, à côté du professeur du Collège de France, c'est le fouilleur de détails, c'est extraordinaire. Vous avez ce côté fouilleur de détails, j'ose pas dire le fouilleur d'étoiles, mais le fouilleur de détails, qui est assez extraordinaire. Et alors, je me suis demandé, il y a là, dans ce livre, quelque chose que vos futurs lecteurs, ou ceux qui vous ont déjà lu, vont découvrir avec un certain étonnement. C'est que moi, j'y vois, personnellement, comme une sorte de manuel, si j'ose dire, je ne sais pas si le terme manuel est le terme exact, mais d'une certaine façon, de mettre le pied dans le paradis, c'est peut-être un peu excessif, mais d'aller vers cette transcendance qui nous est si chère, et vous nous donnez comme des clés qui vraiment nous servent par moments. Je veux dire, on a l'impression qu'on décolle. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, on passe, n'oublions pas, du premier chapitre, Cambridge, Claudel, etc., etc., au dernier chapitre, le Pont des Arts. Et il y a, au fur et à mesure, grâce à votre magie, à votre connaissance de la poésie, votre expérience de la poésie, de la poétique, une sorte de décollement qui nous permet, par moments, de vraiment arriver à, je veux dire, à un moment, à des moments seconds, etc., etc. Et est-ce que, par moment, en vous lisant, j'ai l'impression de revoir la Pietà de Michel-Ange et avec ce mélange de bonheur et de malheur?
Oui, il est certain que j'ai écrit le livre un peu comme j'écris des poèmes. Je parle de quelque chose, la plupart du temps, je parle de quelque chose de concret, afin d'aller vers l'ouverture et vers l'au-delà. Et j'aimerais bien que vous ayez raison, que le livre ouvre constamment des portes et permet au lecteur presque de marcher, sinon dans le paradis, du moins dans un monde autre. Je reviens, entre parenthèses, mais encore une fois, ce n'est pas simplement une parenthèse, à une expression que vous avez utilisée, fouilleur de détails. Vous savez que c'est Proust, et que Proust, enfin le narrateur dans La recherche du temps perdu, vers la fin, dit qu'il a montré quelques esquisses du livre qu'il voulait publier à ses amis, et ses amis n'ont pas vraiment compris, et l'ont traité de fouilleur de détails. Alors, dit-il, que je pensais découvrir des lois. Et je pense que c'est très important.
Ce qui nous renvoie à privilège.
C'est-à-dire que c'est souvent celui qui regarde intensément un détail qui trouve une loi universel. Je suppose que c'est la même chose dans beaucoup de domaines de la science. C'est certainement le cas quand on regarde une œuvre littéraire, picturale, musicale. Je voulais parler très brièvement de la symphonie pastorale parce que ce n'est pas une œuvre religieuse. La Pietà de Michel-Ange, j'abonde dans votre sens, on a l'extrême douleur, on a même un dieu mort dans les bras de sa mère.
Inouï.
Oui. Mais en même temps, on sait qu'au-delà de cette image, il y a, peut-être pas pour Michel-Ange, mais pour nous, la résurrection. Mais la symphonie pastorale de Beethoven vient d'un homme qui n'était pas chrétien, qui était peut-être profondément religieux dans le sens moderne du mot, mais c'est une œuvre qui commence, mouvement après mouvement, à évoquer une musique naturelle, c'est-à-dire celle des oiseaux. J'en parle dans mon livre. La musique naturelle des oiseaux, qui devient la musique, disons, artificielle, artistique, enfin la musique de Beethoven. Les sons sont transmués dans chaque mouvement, et non pas seulement à la fin du deuxième. Et cette nature qui est tout à fait naturelle, pas du tout surnaturelle, il y a des paysans qui s'amusent, etc., qui dansent, est tout d'un coup abîmée. Presque détruite par l'orage du cinquième mouvement. L'orage vient, détruit tout, il n'y a plus de chants d'oiseaux comme dans la nature. On est vraiment dans le Sturm und Drang, etc.
Oui.
Et puis, tout d'un coup, il y a un moment presque de silence, quelques notes, et le dernier mouvement, qui est une joie tout à fait différente de la joie du début. Au début, on est dans l'allégresse du monde tel qu'il est. À la fin, on passe un seuil pour entrer dans la joie d'un monde recréé qui est une sorte de nouveau printemps, le printemps éternel.
On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Thank you. Chers auditeurs, je suis avec Michael Edwards. Nous parlons ensemble de son dernier livre qui s'appelle « Le bonheur d'être ici ». Un livre absolument, je dirais, assez extraordinaire, car il nous plonge à la fois dans nos lieux d'ici et en même temps nous emmène, nous donne mieux que le pressentiment d'autres mondes. Et vous avez des formules dans maintes et maintes pages qui sont tout à fait éblouissantes. Celle-ci, je me permets de la citer. « Si la tâche de l'art est de nous laisser entrevoir le mystère d'un monde autre, telle est la tâche également de la vie. » C'est dire que c'est un livre qui est joyeux, qui est plein d'espérance, qui est presque ludique, si j'ose dire. Il l'est souvent, bien sûr. Et se termine par ce fabuleux chapitre. Ils sont tous fabuleux, pour être franc, mais sur le pont des arts. Et ce pont des arts, là, vous êtes vraiment un fouilleur de détails extraordinaire. Vous nous le faites voir, vous, l'homme de Londres, si j'ose dire, à l'envers, bien sûr, qui est ici avec nous. Vous partagez notre pain quotidien, si j'ose dire, et vous nous faites voir tout ce qui entoure le pont des arts de façon assez magique, hein, je dois dire.
J'ai voulu terminer par ce chapitre, merci pour ce que vous en avez dit, mais j'ai voulu terminer par ce chapitre parce que le livre lui-même a une forme. Ce n'est pas simplement une série de chapitres, c'est d'abord un livre où je dialogue avec beaucoup d'autres personnes qui ont montré, qui n'ont pas simplement réfléchi au bonheur d'être ici, mais qui l'ont montré. Et je pensais qu'en parlant de Rousseau, de Claudel, de Milton,
Baudelaire,
mais aussi de Handel, de Purcell, de Manet et d'autres, je pouvais à mon tour montrer ce qu'est le bonheur d'être ici. Et le fil de l'argument est repris d'un chapitre à l'autre. Et je voulais aussi que la forme du livre soit la forme de la pensée du livre. C'est pour cela que je commence avec Dans l'allégresse de Claudel, du Rousseau, de la deuxième...
Claudel converti à cause de Baudelaire.
Oui, curieusement.
Curieusement.
Oui, oui. La deuxième rêverie du Promeneur solitaire de Rousseau et ensuite Whitman, pour me plonger dans trois chapitres successifs dans l'enfer... Littéralement, l'Inferno de Dante, la prisonnière de Proust et l'Ecclésiaste, entre parenthèses, l'Inferno est précisément le genre d'œuvre dont vous parliez tout à l'heure, où on est dans l'enfer de la vie. L'Inferno, ce n'est pas l'enfer d'après la vie uniquement, c'est aussi la dimension infernale de la vie que nous menons ici. Mais dans cet enfer,
il y a... Qu'on ne peut pas occulter.
Qu'on ne peut pas occulter, mais en même temps, dans cette descente, Dante crée je ne sais pas combien de moments qui parlent précisément du bonheur d'être ici et du bonheur qui naît du malheur même. Et à la fin du livre, je sors donc de cette descente dans les enfers, comme si le livre était une sorte de poème épique, pour parler de la joie de plusieurs écrivains, la joie dans le Bénédicité, dans Milton, dans Claudel, encore une fois, et dans la musique et dans la peinture. Et à la fin, je me suis dit, mais ça est très bien, puisque je parle du bonheur d'être ici, de parler de l'ici. Je parle constamment de l'ici. C'est d'ailleurs le sens du livre. Ce n'est pas un livre sur le bonheur, c'est un livre sur le bonheur d'être ici. Je définis le bonheur comme le bonheur d'être ici.
C'est très juste.
Donc, j'ai terminé par ce chapitre sur le pont des arts, où je suis littéralement sur le pont des arts. Au moment où je l'écrivais, je ne l'y étais plus, mais c'est comme si j'y étais.
J'y étais encore.
Et j'ai été frappé par le fait que, dans un des plus beaux panoramas urbains qui soit, le pont des arts n'existe pratiquement pas, surtout lorsqu'on est dessus. C'est une chose très frêle.
C'est fragile.
Très solide. Oui, elle est très solide parce qu'elle a été escamotée plusieurs fois et puis finalement, il a été reconstruit. Mais on dirait une structure fragile. On pourrait très bien imaginer tomber ou même que le plancher s'écroule, etc. Et dans ce moment où on peut avoir une certaine crainte parce que la Seine est en dessous, je ne sais pas nager, etc. On est vraiment dans le monde... où la mort menace, autour de soi, il y a toute cette beauté. Et puis, c'est un lieu, comme tous les lieux du monde, qui a une belle hauteur sous plafond, où que l'on se trouve, le ciel est au-dessus de sa tête, même dans une impasse, un impasse un peu sale de Paris, même en banlieue, etc. Et j'étais attentif aussi au fait que le pont des arts est un pont. Ce n'est pas une échelle, ce n'est pas comme la tour de Babel où on essaie de monter vers le ciel et de conquérir le ciel.
C'est une passerelle.
C'est une passerelle, oui. On va de l'ici à un autre ici. On est sur l'horizontale, on est vraiment dans l'ici. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un pont a une sorte de sens métaphysique, parce que les deux ici sont reliés, font partie d'un même ensemble, bien sûr, mais quand on est d'un côté du fleuve, l'autre ici devient le là-bas. Et quand on traverse le pont, c'est comme si on allait vers l'au-delà,
et
presque.
Puis, comme par hasard, en face, c'est l'Académie française, lieu des immortels, donc c'est assez humoristique.
Oui.
Alors, je pense que le moment est venu de nous séparer, mais je dois dire que ce livre est un joyau, d'une petite merveille, comme il s'en fait peu. Il est au service de l'être, du pouls de l'être. Il nous permet de mieux savourer notre bonheur d'être ici. Et aussi, il nous donne, c'est assez impressionnant, je dois dire, des possibilités de nous transporter dans des mondes qui sont très proches de nous et que nous ne soupçonnons pas toujours par moments. Alors, je me permets, avant de quitter, de vous donner le mot de la fin, de lire les dernières pages, les dernières lignes de ce livre tout à fait fascinant, car vous êtes un poète et un grand poète. La poésie et la science de l'ici, je lis évidemment la fin du livre de Michael Edwards, Le bonheur d'être ici, chez Fayard. La poésie et la science de l'ici, la connaissance du lieu et toute la littérature, toutes les formes d'art averties de tous les malheurs possibles et imaginables ont pour domaine au fond le bonheur, la recherche d'un avenir favorable. On sent que pourrait commencer ici le poème du soi lorsque la Seine croule sous les pas et qu'au passage du vent, le pont des arts légèrement se balance. Est-ce que vous aimeriez lire un passage, cher professeur ?
Oui, une petite phrase du préambule.
Parfait.
Qui va dans ce sens, parce que justement, vous venez de lire un passage où je parle du soi et non pas du moi. Et s'il y a un au-delà du monde, il y a aussi un au-delà du moi qui est pour moi le soi, qui est peut-être d'ailleurs le tu. Et au début de ce livre, après avoir dit que le bonheur nous hante, etc., je dis un peu plus loin, regardez l'ici comme un bref éclair entre deux ténèbres, où il faut s'emparer du bonheur, l'épuiser avant qu'il ne soit trop tard, le réduire d'une autre façon que celle qui suppose qu'il faut chercher ailleurs, désespérément, etc. Puisqu'on ne discerne pas que l'ici donne sans cesse sur autre chose, sur le possible. On le sent à chaque fois qu'un être, un objet, un paysage, une rue, semblent irradiés par l'inconnu, le neuf, et font pressentir un réel plus réel et plus secret, ou qu'un sommet de bonheur laisse insatisfait, qu'à la cime, il manque une marche.
Je vous remercie infiniment, Michael Edwards. Avec Michael Edwards, la vie est non seulement un rêve, mais une réalité. Merci, chers auditeurs, à bientôt. Au revoir.
Merci.